chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu. Donc, Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Et on va commencer par la lecture. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Les béatitudes, on appelle ce texte-là les béatitudes. Ça introduit le sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne, c'est le premier des cinq sermons qu'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu. Ce matin, je vous rassure tout de suite, on n'aura pas le temps de regarder les 12 versets, mais je veux prendre le temps de bien situer le texte. Si on aurait commencé à étudier l'Évangile de Matthieu, on aurait vu plusieurs choses au préalable avant d'arriver dans le sermon sur la montagne, puis plus particulièrement dans l'introduction du sermon sur la montagne que le Seigneur Jésus fait dans les textes qu'on a lus ce matin. Donc, faites-vous-en pas, tout le monde va partir à l'heure pour aller manger parce qu'on ne se rendra pas jusqu'au verset 12. Gilles devra m'appeler à un moment donné pour voir la suite du chapitre, ou du texte plutôt, ce que j'aurais à dire. Mais j'aimerais quand même vous faire remarquer, parce que moi, j'aime beaucoup avoir une vue d'ensemble avant de rentrer dans un texte, puis comprendre où se situe justement le texte dans la vue d'ensemble. Puis lorsque j'ai fait ça, j'ai quand même trouvé très intéressant de voir que Matthieu inclut cinq sermons majeurs du Seigneur Jésus dans son évangile. Et qu'à travers ces sermons-là, il y a des enseignements sur la vie du Seigneur Jésus. Après ça, il revient avec une portion majeure où est-ce que le Seigneur Jésus fait un autre sermon. Ça, c'est la première chose que j'ai vue, puis je vais vous les donner. La deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'on retrouve beaucoup la mention du royaume des cieux dans l'Évangile de Matthieu. Et d'ailleurs, dans le texte qu'on a lu ce matin, c'est mentionné deux fois, le royaume des cieux. Matthieu met beaucoup d'emphase sur la question du royaume dans son Évangile. Même à 35 reprises, on retrouve royaume des cieux ou royaume de Dieu. Plus rarement, je vais vous le faire remarquer tout à l'heure, royaume de Dieu, mais il utilise le terme royaume des cieux. Donc, Matthieu met une grande importance sur la prédication du Seigneur Jésus dans son évangile. La première prédication, mais elle commence au chapitre 5, puis elle finit au chapitre 7. C'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est le plus grand sermon, d'après ce que je peux comprendre, qu'on retrouve dans les Écritures. Et c'est comme ça que Matthieu choisit, après avoir fait une introduction, parce que les quatre premiers chapitres, ça introduit son évangile, mais après avoir fait son introduction, Matthieu choisit ce sermon sur la montagne-là pour introduire le ministère du Seigneur Jésus, ce qu'il veut nous raconter du ministère du Seigneur Jésus. Le deuxième sermon, donc le sermon sur la montagne, trois chapitres, c'est les caractéristiques du citoyen du royaume des cieux. Deuxième sermon qu'on retrouve, c'est les instructions au chapitre 10, c'est les instructions que le Seigneur Jésus donne aux 12 disciples lorsqu'il leur dit d'aller annoncer le royaume des cieux. Le verset 7 du chapitre 10, ça dit « Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. » Troisième sermon, c'est au chapitre 13. C'est diverses paraboles que le Seigneur Jésus donne concernant le royaume des cieux. Le Seigneur va dire aux disciples, au verset 11 du chapitre 13, « Il nous a été donné de connaître les mystères du royaume. » Donc, c'est par ces paraboles-là que le Seigneur Jésus donne un enseignement en ce qui concerne le royaume des cieux. Ensuite, il y a le chapitre 18, c'est les relations dans le royaume des cieux. Suite à la question des apôtres, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Et finalement, le dernier discours, c'est le discours sur le mont des Oliviers. Le royaume est la fin des temps, le chapitre 24, puis jusqu'au verset 46 du chapitre 25, où ce que le Seigneur dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, on a cinq grands sermons qui concernent le royaume. Matthieu, il y a de la suite dans les idées parce que le premier sermon, c'est sur une montagne, le sermon sur la montagne. Puis le dernier sermon, il est aussi sur une montagne, sur le mont des Oliviers. Je trouvais ça intéressant. Mais ce n'est pas les seuls sermons qu'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu, parce qu'à travers ces sermons-là, comme je disais, Matthieu nous parle de la vie du Seigneur Jésus, puis lorsqu'il nous en parle aussi, il nous donne aussi des enseignements à travers ça que le Seigneur Jésus donnait. Mais on a cinq blocs principaux de sermons majeurs que Matthieu nous donne dans son évangile. Et puis l'autre chose, juste pour votre bénéfice, là, Matthieu, il n'essaye pas d'être chronologique dans sa vie du Seigneur Jésus. Hein. Ce n'est pas un enseignement chronologique de la vie du Seigneur Jésus. Il a un but, Matthieu, son but, c'est d'annoncer l'Évangile aux Juifs. Fait que c'est son but. Donc, les chapitres 1 à 4, c'est un peu un prologue, une introduction que Matthieu donne dans son Évangile. Et puis, on a, à partir du verset 23 du chapitre 4, on a la transition entre ce prologue-là que Matthieu fait et puis où est-ce qu'il va aller après ça dans l'enseignement qu'il veut donner à propos du Seigneur Jésus. Puis j'aimerais ça qu'on regarde le prologue parce que ça fait une transition. Ça fait une transition avec, naturellement, le sermon sur la montagne. Ça fait une transition aussi avec, bon, Matthieu veut commencer à enseigner ce qu'il y a à dire à propos du Seigneur Jésus. Fait qu'au verset 23, on voit, du chapitre 4, on voit que le Seigneur Jésus parcourait toute la Galilée. Et la majorité de ce que Matthieu nous raconte à propos du Seigneur Jésus se passe en Galilée. Matthieu concentre son évangile sur les moments où est-ce que le Seigneur Jésus avait un ministère en Galilée. On voit au verset 23 aussi qu'il enseignait dans les synagogues puis prêchait la bonne nouvelle du royaume. Donc, il y avait un ministère d'enseignement. Et puis, ce ministère-là concernait la bonne nouvelle du royaume. Jean-Baptiste a fait aussi la même chose. Hein? Jean-Baptiste prêchait que le royaume des cieux ou le royaume était proche. Donc, le Seigneur Jésus fait exactement la même chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Matthieu mentionne plusieurs fois le royaume dans son évangile, au moins 35 fois. C'est important de comprendre de quoi il parle lorsqu'il parle du royaume des cieux, si on veut comprendre son enseignement dans son évangile, puis dans les béatitudes aussi, parce qu'il mentionne deux fois dans les textes qu'on a lus. Qu'est-ce qu'il entend à propos du royaume des cieux? Puis, si vous êtes comme moi, ce n'est pas quelque chose qu'on considère souvent, mais pourtant c'est souvent mentionné, comme j'ai dit dans Matthieu, mais même dans les Épîtres, la question du royaume. Puis c'est intéressant parce que ce que Mario nous a fait chanter, hein, on a chanté « Du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens, un règne », ça nous parle du royaume, hein. Majesté à lui la majesté, dans notre cœur, Christ le Seigneur règne, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Il y a cette idée-là de royaume, même dans le cantique qu'on a chanté. Premièrement, je fais remarquer que Matthieu utilise le terme majoritairement « royaume des cieux », tandis que les autres évangélistes utilisent le terme « royaume de Dieu ». Mais ils font exactement référence à la même chose. Pourquoi Matthieu utilise plutôt le terme « royaume des cieux » Eh bien, Matthieu, comme je disais, il écrit aux Juifs. Et puis, les Juifs font très attention de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Eux autres, c'était majeur pour eux de ne pas prononcer le nom de Dieu à la légère. Donc, au lieu de dire « royaume de Dieu », Matthieu va utiliser le terme « royaume des cieux » pour faire référence à la même chose à cause de à qui il écrit, hein, qui il vise dans ses écrits. Bon, deuxièmement, à quoi est-ce qu'il fait référence? Bien, un royaume, ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent, mais on a encore le Royaume-Uni, où est-ce qu'on a maintenant un roi contesté, parce que la reine est morte, mais on a d'une certaine mesure l'idée de ce qu'est un royaume avec la monarchie britannique, où est-ce qu'on a un roi qui règne sur un certain endroit. Bon. Il y a le Royaume-Uni en tant que tel, mais aussi les colonies qu'il y avait à l'époque où est-ce que, bon, c'est moins évident de ce que c'était, mais il régnait quand même sur les colonies. Donc, c'est la manière que la meilleure image qu'on a d'un royaume, c'est où est-ce qu'un souverain règne sur un lieu physique quelconque. Donc, on peut déduire que lorsqu'on parle du royaume des cieux, ben c'est le règne où est-ce que Dieu règne en souverain. Contrairement à ce qu'on est habitué, Dieu n'a pas une limite dans son règne. Il n'y a pas un lieu physique où ce que Dieu règne, mais lorsqu'on parle du royaume de Dieu, du royaume des cieux, on fait référence au fait que Dieu règne. Bon, dernièrement, je me suis intéressé, j'ai acheté un livre d'Albert Mohler qui a écrit sur le Notre Père. Très intéressant, pas long, je vous le suggère comme lecture. Nous qui avons récité, plusieurs d'entre nous qui avons récité le Notre Père dans le passé, il nous donne toute une image de ce qu'est le Notre Père qu'on ne réalisait pas dans le temps. Puis même comme croyant, il donne un enseignement très important. Puis dans Notre Père, on parle du royaume, que ton règne vienne. Et je faisais référence à un autre livre que j'ai fait venir sur le royaume, que j'ai trouvé, qui me donnait un enseignement que je trouve très intéressant. Puis dans ce livre-là, il donne la définition de ce que est le royaume de Dieu. Puis je vous la donne. Le royaume de Dieu est sa royauté, son règne, son autorité. Lorsque cela est réalisé, nous pouvons parcourir le Nouveau Testament et trouver passage après passage où cette signification est évidente, où le royaume n'est pas un royaume ou un peuple, mais le règne de Dieu. Puis il va ajouter, lorsque la parole mentionne le royaume de Dieu, elle fait toujours référence à son règne, à sa domination, à sa souveraineté, et non au domaine dans lequel il l'exerce. Donc, lorsqu'on lit la question du royaume de Dieu, il faut comprendre que on fait référence au règne de Dieu, que Dieu règne. Bon, on n'a pas le temps de faire une étude exhaustive du royaume, puis je devrais me préparer plusieurs heures si je voudrais le faire. Mais lorsqu'on parle du royaume des cieux, du royaume de Dieu, ça fait référence aussi au règne du Seigneur Jésus. Bon, puis je vous donne trois manifestations du royaume qu'on a dans les Écritures. La première, c'est lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, les évangélistes nous disent que le royaume était présent. Lorsqu'on l'accuse de chasser des démons par le prince des démons, le Seigneur va dire ceci à ses accusateurs, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu parmi vous. » Il fait référence à lui-même et dit « Je chasse les démons, donc le royaume de Dieu se manifeste et est venu parmi vous. » Lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, le royaume de Dieu était là parce que le Seigneur Jésus est Dieu. Dans Luc 17, on lit ceci. Les pharisiens demandèrent à Jésus, « Quand viendrait le royaume de Dieu? » Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Il faisait encore référence à lui-même. Maintenant, le royaume de Dieu est présent dans tous ceux qui lui appartiennent. Le royaume des dieux est dans tous ceux, dans tous les vrais croyants. On reconnaît, nous, le Seigneur, comme pas seulement notre Sauveur, mais comme notre Seigneur. D'ailleurs, on l'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Et puis, il vient habiter en nous par son Esprit. Donc, on est citoyen du royaume des cieux, déjà sur la terre. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce matin, lorsqu'on lisait dans Marc, puis je vais vous revenir à ça, j'ai rajouté ça dans mes notes, là, mais on a lu à propos du jeune homme riche, on l'appelle jeune homme parce que dans un des évangiles, on sait que c'est un jeune homme. Mais qu'est-ce qu'il demande? Il dit, « Bon maître, lui dit, demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » C'est ce qu'il veut. Hein? Lorsqu'il va mourir, il veut savoir qu'il va être avec Dieu pour l'éternité. Puis remarquez ce que le Seigneur Jésus dit aux disciples qui étaient étonnés de sa réponse au verset 24. Jésus leur parlait ici et reprenant, il leur dit, OK. « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, ce Seigneur Jésus est en train de dire que la vie éternelle puis le royaume de Dieu, c'est exactement la même chose. On parle de la même chose. Puis lorsque le Seigneur Jésus nous sauve, on devient citoyen, puis on a la vie éternelle déjà aujourd'hui. On va en bénéficier et on va en jouer plus tard, mais on l'a aujourd'hui quand même. On est citoyen. Je pensais à Colossiens aussi que j'ai rajouté. Je vous lis juste à partir du verset 12. « Rendre grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Lorsqu'on est sauvé, on est transporté, on est délivré des ténèbres, on est transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, le royaume des cieux, on ne le voit pas, mais on fait partie de ce royaume-là. Puis d'ailleurs, dans ce qu'on a lu tout à l'heure, le Seigneur va dire « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Hein? » Puis au verset 10 encore, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » On possède, on est dans le royaume des cieux, déjà sur la terre. On est citoyen du royaume des cieux. Et je fais remarquer tout de suite, même si je vais vous le répéter plus tard, c'est quand même quelque chose d'important de voir que le premier heureux ou bienheureux qu'on a dans les béatitudes concerne le royaume des cieux, puis le dernier aussi concerne le royaume des cieux. Donc, toutes les béatitudes englobent cette idée-là du royaume des cieux. Enfin, le royaume des cieux, mais c'est à venir. Bon, pendant 1000 ans, le Seigneur Jésus va revenir, ce qu'on appelle le millénium, puis il va régner en souverain sur la terre pendant 1000 ans. Donc, le royaume des cieux sera plus manifeste à ce moment-là. Et puis, dans 1 Corinthiens 15, 24, c'est dit que le Seigneur va remettre le royaume à celui qui est Dieu son Père, autrement dit, après le millénium, puis après qu'il y aura... Satan aura été envoyé dans les temps de feu, puis que la mort sera... il n'y aura plus de mort, mais le Seigneur va remettre le royaume à son Père, puis là, on va être dans l'état éternel où est-ce que Dieu règne. Donc, on a cette manifestation-là qui est peut-être plus concrète hein, de la manifestation du royaume à venir. Mais lorsque le Seigneur était sur la terre, bien, il prêchait la bonne nouvelle du royaume. La deuxième chose qu'on voit au verset 23, c'est qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, le ministère du Seigneur Jésus pendant qu'il était sur la terre, puis de la manière que Matthieu l'introduit dans cette transition-là à ce qu'il va nous enseigner, c'est de dire que pendant que le Seigneur était sur la terre, il enseignait puis il faisait du bien. Et ces guérisons-là qu'il faisait, puis lorsqu'il chassait les démons, ça manifestait d'une manière concrète le royaume de Dieu, que le royaume de Dieu était parmi eux. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, le Seigneur Jésus va donner aux 70 disciples qu'il veut envoyer devant lui dans les villes qu'il va aller. Donc, il les envoie dans ces villes-là, ces 70-là, puis il leur donne des instructions. Écoutez bien ce qu'il leur dit. Il dit, dans quelques villes que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce que vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc, le fait que le Seigneur Jésus leur avait donné ces capacités-là là, de guérir puis de délivrer ceux qui étaient sous l'emprise du mal, ben, c'était une manifestation que le royaume de Dieu était proche. Donc, il dit, faites ceci, puis dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et finalement, dans les versets 24 et 25, Matthieu va conclure cette transition-là en disant que sa renommée se répandait dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, il les guérissait et une grande foule le suivait de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Donc, c'est une description générale de ce que le Seigneur Jésus avait comme ministère. Et puis, après avoir fait cette description générale-là, Matthieu commence avec le sermon sur la montagne pour ouvrir son enseignement ce qui concerne le Seigneur Jésus. Donc, c'est ce qui nous intéresse particulièrement, mais je voulais asseoir ce que j'allais vous dire sur cette introduction-là que je tenais à faire pour qu'on comprenne bien. Puis, j'espère aussi qu'il nous aide, si on veut lire tout l'évangile de Matthieu, bien, c'était quoi le but? Puis, les enseignements majeurs de ce que Matthieu nous a donné dans son évangile. Donc, chapitre 5, ça ouvre le ministère du Seigneur Jésus. Verset 1, c'est écrit « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. » Bon, maintenant, lorsqu'on lit les gens qui commentent ces textes-là, on nous dit que c'était probablement une haute colline. Puis, Matthieu ne nous dit pas c'est quelle, ne nous dit pas c'est où. Donc, on parle du sermon sur la montagne parce que le Seigneur était sur une montagne ou sur une haute colline lorsqu'il l'a donné. Probablement que c'est un sermon qui est fait en Galilée, mais on ne peut pas le certifier, mais vu que la majeure partie du ministère du Seigneur Jésus que Matthieu raconte est en Galilée, on peut penser que c'était en Galilée. Et Matthieu poursuit en disant, « Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Lorsque les personne n'enseignait à cette époque-là, lorsque les maîtres, les rabbins enseignaient à cette époque-là, ils enseignaient toujours assis. C'était la manière d'enseigner. S'ils parlaient pendant qu'ils étaient debout ou qu'ils marchaient, c'était plus une discussion non officielle, hein? C'était informel. Donc, si je serais à cette époque-là, je parlerais d'une manière informelle. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était comme ça. Mais lorsqu'on voulait bien assir que les gens comprennent que ce qu'on disait était officiel, on s'assoyait pour enseigner. Donc, le Seigneur Jésus s'assoit pour enseigner parce qu'il va leur donner un enseignement officiel. C'est intéressant de voir que ce sont les disciples qui s'approchent de lui. Dans le verset précédent, au verset 25, on voit qu'il y avait une grande foule qui suivait le Seigneur Jésus. Mais ce sont les disciples. Puis ce n'est pas juste les 12 ici qu'on parle. Il faut faire une distinction. Des fois, on lit disciples, on pense que c'est les 12 apôtres. Mais non, non, c'était ceux qui voulaient vraiment suivre le Seigneur Jésus comme un maître, comme quelqu'un qui les enseignait, hein, qui était intéressé par ce que le Seigneur Jésus enseignait. Contrairement à la foule, eux, qui les suivaient probablement pour les bénéfices. C'est le fun lorsqu'on est malade d'avoir quelqu'un qui nous guérit. C'est le fun lorsqu'on a faim d'avoir quelqu'un qui nous nourrit. Donc, il y avait toujours une foule qui suivait le Seigneur Jésus pour ses bénéfices, mais ce sont ses disciples qui sont intéressés à écouter ce que le Seigneur Jésus a à enseigner. Donc, ce sermon sur la montagne-là, c'est encore pour nous aujourd'hui. Si on se définit bien, on est des disciples du Seigneur Jésus. On est intéressé à savoir ce que le Seigneur Jésus enseigne. On est intéressé de voir ce que je vais faire, ce qu'il nous enseigne dans les Béatitudes. On est intéressé à ce qu'il nous enseigne dans les Évangiles. On est intéressé à ce que Dieu nous enseigne dans sa parole qu'il nous a laissée. Donc, le sermon sur la montagne, ce n'était pas seulement pour les gens de l'époque, mais c'est pour nous aujourd'hui aussi. Puis ça nous donne, comme je disais tout à l'heure, les caractéristiques du citoyen du royaume des cieux. Donc, ça nous donne ce que devrait nous caractériser, nous, comme disciples du Seigneur Jésus. Et puis, c'est quand même important de reconsidérer ces enseignements-là, parce que malheureusement, dans l'Église at large, j'utilise un terme anglais, mais vous comprenez ce que je veux dire, on se retrouve pas dans les enseignements des Béatitudes. Puis s'il faut être honnête, probablement que chacun d'entre nous aussi, ce n'est pas nos premières préoccupations. Lorsqu'on va se mettre à regarder précisément ce qu'enseignent les Béatitudes, peut-être on va se sentir que ça nous remet un peu les pendules à l'heure, même à nous. Parce que les Béatitudes, c'est officiellement un enseignement radicalement opposé de tout ce que vous allez entendre dans le monde. Lorsque le Seigneur parle ici d'être heureux, puis donne les caractéristiques de ceux qui sont heureux, il n'y a pas personne dans le monde qui va donner un enseignement comme ça, de ce que le Seigneur Jésus a enseigné. Au verset 2, c'est écrit, « Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. » Puis là, on pourrait dire, « Bien, c'est sûr, lorsque tu enseignes, tu rouvres la bouche. Si tu n'ouvres pas la bouche, tu n'enseignes pas parce que tu ne parles pas. » On pourrait trouver que c'est un peu bizarre que Matthieu mette ça là, mais c'est sa manière de dire que... puis c'était une manière aussi, il semblerait à cette époque-là, d'écrire pour dire, « Bien là, c'est le message qui va être dit, c'est un message solennel, c'est un message aussi qui est intime, que le Seigneur Jésus va parler avec souci puis de son cœur. » Donc, il rouvre la bouche et c'est ça qu'on doit comprendre ici. Donc, s'il le fait de cette manière-là, ben on doit être attentif parce que le Seigneur Jésus ouvre la bouche puis il y a des choses importantes à nous dire. Puis d'ailleurs, lorsque j'ai commencé à étudier ce texte-là, je me suis dit, on a devant nous, dans ces trois chapitres-là, on a le plus grand prédicateur que la terre a jamais porté. Personne n'égale le Seigneur Jésus comme prédicateur, comme enseignant. Puis on a probablement le plus grand sermon qui a jamais été prêché par le Seigneur Jésus lui-même. Et puis, son introduction des Béatitudes est certainement aussi une introduction qu'on n'aurait pas pensé nous-mêmes faire lorsqu'on veut inviter les gens à entrer dans le royaume des cieux. Donc, le Seigneur commence son sermon par la formule « heureux ». Et puis, c'est une formule qui était utilisée ailleurs dans les Écritures, principalement dans les psaumes. Le premier psaume, c'est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Le plus long psaume, le psaume 119, qui est un hymne à la parole de Dieu, commence aussi par le mot « heureux ».« Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Donc, tu sais, c'est une formulation qui n'est pas nouvelle, qu'on retrouve, même si vous prenez une concordance puis vous regardez les psaumes, vous allez trouver plusieurs endroits où est-ce qu'on a ce terme-là, heureux. Darby, lui, choisit de le traduire par bienheureux. On aurait pu le traduire aussi par bienheureux. C'est une bonne traduction du terme qui est utilisé ici. Maintenant, on appelle cette section-là du sermon les béatitudes, mais le mot béatitude, ce n'est pas inspiré. Là. C'est une manière de désigner l'introduction que le Seigneur Jésus fait ici. Et puis, j'ai regardé dans le dictionnaire, le mot béatitude, ça vient du latin. Je vais essayer de le prononcer comme il faut, mais je n'ai pas fait de latin quand j'étais jeune. Beatitudo, qui veut dire tout simplement le bonheur. Le Larousse, j'ai regardé le Larousse, la version web, c'est facile, à cette heure, on tape puis on a tout sur le web, on n'a plus besoin de sortir un livre puis d'ouvrir. Mais le Larousse sur le web, il définit le bonheur de la manière suivante. De trois manières, bonne chance ou circonstances favorables, c'est une des définitions qu'il donne. Nous avons eu le bonheur d'arriver à temps. Donc, c'est comme si on dirait on a eu la chance d'arriver à temps, on a eu la bonne fortune d'arriver à temps. C'est une manière de définir le bonheur. Une autre définition que le Larousse nous donne, c'est l'état de complète satisfaction. Rien ne peut troubler leur bonheur. Puis c'était intéressant parce qu'en parenthèse, ils ont donné un synonyme, béatitude. Ou la troisième définition qu'ils nous donnent, c'est la joie ou le plaisir lié à une circonstance. Quel bonheur de se retrouver ici. C'est un plaisir circonstanciel. Puis c'est un peu comme ça lorsqu'on pense au bonheur, c'est un peu ça, comme ça qu'on pense aussi. On pense, ben, j'ai eu de la chance par bonheur, il est arrivé quelque chose de le fun, tu sais, puis ça m'a donné, tu sais, c'est heureux, c'est du bonheur. Mais je pense que c'est plus la définition du milieu qu'on peut retrouver qui nous dit qu'est-ce que le Seigneur Jésus ici nous enseigne à propos du bonheur. C'est d'être dans une satisfaction complète. Puis c'est ça que le Seigneur dit ici. Il nous parle de cette satisfaction-là complète que Dieu accorde à ses enfants puis à ceux qui lui sont fidèles. On pourrait dire que c'est le bonheur d'avoir les faveurs de Dieu. Donc, c'est un contentement intérieur qui n'est pas affecté par les circonstances ou la chance. Puis d'ailleurs, moi, je suis peut-être chatouilleux des fois, tu sais, mais il me semble que le mot « chance » ne va pas avec ma perception que Dieu est souverain dans ma vie. Tu sais. Si Dieu est souverain dans ma vie, les choses n'arrivent pas par chance ou je n'ai pas été chanceux. C'est Dieu qui est en contrôle. Mais c'est un peu ça ici que je pense comment il faut comprendre ce mot-là, bienheureux ou heureux. C'est cette faveur-là que Dieu accorde à ses enfants. Puis chacune des béatitudes que le Seigneur Jésus enseigne ici, il y a trois parties. Il y a un bienfait qui est attribué, qui est toujours la même, heureux ou bienheureux. Il y a la description de la personne qui est bienheureuse. Puis je vais vous faire remarquer, mais je vous dis tout de suite là, que des huit béatitudes que là, les quatre premières nous parlent de la condition de la personne qui est bienheureuse, ceux qui sont pauvres en esprit ou les affligés, etc. Puis ensuite, les quatre dernières nous parlent du caractère de ceux qui sont bienheureux, les miséricordieux, etc. Et il y a une conséquence aussi dans chacune des béatitudes. Bon, on l'a vu, je l'ai fait remarquer pour la première et la dernière, le royaume des cieux est à eux, mais il y a aussi, ils seront consolés, etc. L'ordre des béatitudes est aussi important. Lorsque vous lisez les béatitudes, là, l'ordre dans lequel le Seigneur Jésus nous les donne est important. Par exemple, puis je vais essayer de faire ressortir ça lorsqu'on va s'attarder sur chacune d'entre elles, mais par exemple, on ne peut pas avoir la deuxième béatitude sans la première. Autrement dit, on ne peut pas... La deuxième béatitude nous dit que heureux les affligés, puis ici, je vais vous faire remarquer que c'est ceux qui sont affligés en cause de leur péché. Mais on ne peut pas être affligé de notre péché si on n'a pas compris ou si on n'a pas vu qu'on est pauvre en esprit. Puis ici, la pauvreté de l'esprit, là, j'anticipe, là, mais c'est de reconnaître qu'on est pécheur devant Dieu. Donc, l'ordre, c'est comme s'il y a un ordre là, qui est important, puis un bâti sur l'autre, mais tu ne peux pas les prendre nécessairement toujours d'une manière séparée. Et puis, comme je le faisais remarquer tout à l'heure, c'est évident qu'il y a deux groupes dans les béatitudes, la condition, puis il y a le caractère de ceux qui sont bienheureux. Puis la condition, c'est vraiment ce qui concerne l'intérieur, tu sais, les principes du cœur. C'est la manière qu'on se voit devant Dieu. Tandis que le caractère, c'est ce que ces conditions-là nous amènent à manifester dans notre personne, à être miséricordieux. D'ailleurs, je vais même prendre quelques instants là, pour qu'on les regarde, parce qu'il y a même, c'est attaché les uns les autres. Suivez-moi, là, on va faire ça tranquillement. La première béatitude, c'est écrit « ceux qui sont dans la pauvreté de leur esprit ». Verset 3, « ceux qui sont pauvres en esprit reconnaissent leur besoin de miséricorde ». Donc, ils caractérisent la cinquième béatitude. La cinquième, ça nous dit qu'ils sont amenés à faire preuve de miséricorde vis-à-vis des autres. Ça va? Donc, ceux qui sont pauvres en esprit, donc qui reconnaissent qu'ils ont besoin de la miséricorde de Dieu, manifestent le verset 7, qui sont eux-mêmes miséricordieux, puisqu'ils ont obtenu miséricorde. Ceux qui pleurent leurs péchés, c'est-à-dire les affligés, sont conduits à la pureté de cœur du verset 8. Hein, heureux ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui sont doux, c'est-à-dire les débonnaires du verset 5, cherchent toujours à faire la paix, qu'on retrouve au verset 9. Hein, heureux ceux qui procurent la paix. Et ceux qui ont faim et soif de justice du verset 6, ne refusent jamais de payer le prix de la persécution pour la justice au verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Donc, ça s'attache. Hein? Ce n'est pas juste que le Seigneur Jésus dit à 8 reprises « heureux », mais tu sais, il y a un attache. Ça s'attache tout ensemble. Puis, il y a un lien dans tout ça. Bon, ça, c'était mon survol. Puis là, je sais qu'il me reste 5 minutes, donc je vous avais dit qu'on ne verrait pas toutes les béatitudes, mais on aura le temps de voir la première. Donc, le Seigneur ouvre la bouche, puis commence à enseigner, puis il dit au verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Maintenant, si on veut comprendre les béatitudes, il faut quand même essayer de comprendre les termes que le Seigneur Jésus utilise. Ça l'aide, tu sais, il choisit ses mots aussi. Donc, il parle ici de pauvre. C'est intéressant de réaliser qu'il y a deux mots pour pauvre dans le Nouveau Testament. Il y a la pauvre veuve de Luc 21. Cette pauvre veuve-là donne 2 pièces d'argent. C'est des leptons, c'était des petites pièces de cuivre qui étaient utilisés dans le temple. Donc, on les utilisait seulement pour donner dans le temple. Donc, le Seigneur va dire qu'elle a mis de son nécessaire, de tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc, c'est une femme, c'est une veuve qui est pauvre. Mais malgré sa pauvreté, malgré le fait qu'elle a la peine à subvenir à ses besoins elle-même, elle a encore quand même un petit quelque chose à donner dans le temple. Donc, ça, c'était un mot où il y avait un terme qui désignait ces pauvres-là. Dans la parabole de l'homme du riche et de Lazare, on a aussi Lazare qui était pauvre. Puis c'est écrit qu'il était couché à la porte du riche, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Donc, Lazare, c'était un pauvre qui devait mendier pour subvenir à ses besoins fondamentaux. Donc, c'était un pauvre qui était dépendant des autres, entièrement dépendant des autres. On pourrait utiliser le terme, c'était un nécessiteux. Il était là, puis il attendait qu'il tombe des miettes de la table pour pouvoir lui-même manger. Donc, c'était une extrême pauvreté. Mais c'est ce terme-là que le Seigneur Jésus utilise. C'est à ce type de pauvre-là que le Seigneur Jésus fait référence lorsqu'il parle ici dans les Béatitudes. Le mot original vient d'un verbe qui pouvait signifier se rétracter, se recroqueviller ou s'effacer, comme faisaient souvent les mendiants à l'époque. T'sais. Puis même, on peut penser que Lazare faisait aussi, hein, c'était des gens qui s'effaçaient, qui se recroquevillaient. Le grec classique utilisait ce mot pour désigner une personne réduite à un dénuement total, qui s'accroupissait dans un coin pour mendier, ce qu'on peut penser ici de Lazare. Donc, le Seigneur Jésus, il dit, heureux ces pauvres, ces types de pauvres-là. Naturellement, il ne parle pas de la pauvreté matérielle. Hein? Il semblerait que l'empereur Julien l'Apostat, qui est un empereur romain en 361-363, il a été réputé avoir dit que lui, il voulait confisquer tous les biens des chrétiens pour qu'ils deviennent pauvres puis qu'ainsi ils rentrent dans le royaume des cieux. C'était sarcastique ce qu'il faisait. Mais le Seigneur ici ne parle pas d'une pauvreté matérielle. Il parle de ceux qui sont pauvres en esprit. Donc, ce que le Seigneur est en train de dire, ce sont ceux qui reconnaissent leur dénuement spirituel total, hein, leur dépendance totale à l'égard de Dieu pour leur salut. Ce sont ceux qui perçoivent qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Hein, qui, si on veut garder l'image ici, ce sont ceux qui mendient la miséricorde de la grâce de Dieu, qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, puis qui sont justement pauvres en dehors de Dieu puis de sa grâce, puis qui se savent perdus puis sans espoir en dehors de l'œuvre du Seigneur Jésus. C'est ici à qui fait référence le Seigneur Jésus. Puis le plus bel exemple, il la donne dans la parabole du pharisien puis du publicain. Le pharisien, lui, il était tout le contraire de pauvre en esprit. Il priait comme ça, « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Tu sais, il ne se voyait pas pécheur, comme le reste des hommes. Toutes les autres le sont, mais pas moi. Puis pas seulement il ne se voyait pas pécheur, mais il se voyait juste devant Dieu, parce que moi, je jeûne, puis je fais l'aumône. Hein? Deux fois par semaine, même, il jeûnait. Mais le publicain, lui, ça nous est dit dans Luc 18, 13, le publicain se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, un peu comme le mendiant, comme Lazare, en disant, « Ô Dieu, sois apaisant envers moi qui suis un pauvre pécheur. » C'est de ces personnes-là que le Seigneur Jésus fait référence. Puis le Seigneur leur dit qu'ils ont la bénédiction d'être dans le royaume des cieux. Le Seigneur même nous dit ou leur dit que le royaume des cieux est à eux. Dans Luc 12, 32, le Seigneur va dire ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est le Père qui nous donne le royaume. Et remarquez que quand le Seigneur Jésus ici dit « le royaume des cieux est à eux », il ne fait pas seulement référence au fait que pour entrer dans le royaume, il faut reconnaître notre pauvreté spirituelle, parce que c'est essentiel, mais que le royaume des cieux nous appartient. Autrement dit, que cette idée-là qu'on est pauvre spirituellement, ce n'est pas juste une fois, puis après ça, on passe à autre chose. C'est la caractéristique. C'est la condition constante de ceux qui sont pauvres en esprit, qui reconnaissent qu'ils sont pauvres en esprit. Donc ça, c'est la première. Je vais arrêter ici. Et puis en conclusion, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que Seigneur Jésus prêche ici, ce n'est pas un message populaire. Puis d'ailleurs, je me disais, écoute, si je devais donner un conseil à un prédicateur qui veut encourager les gens à entrer dans le royaume des cieux, c'est sûr, je ne leur dirais pas, vous êtes pauvres en esprit. Il me semble que ce n'est pas vendeur comme message. Mais le Seigneur Jésus, il n'essayait pas d'être vendeur dans son message. Il donnait la réalité des choses. Il donnait la réalité de ce qui était la condition des gens. Comme on a lu ce matin, ce jeune homme-là qui veut savoir comment... Lui, ce qu'il voulait savoir, c'est comment je peux être sûr, tu sais, que je vais rentrer dans le ciel. Puis il est content d'entendre ce que le Seigneur dit. « Bien, fais ça, fais ça, fais ça. Hey, Ça va bien, j'ai fait ça depuis ma jeunesse. Ouais, mais il te manque une chose essentielle. Parce que Seigneur Jésus, ce qu'il veut, c'est qu'il réalise que finalement, là, ta condition de cœur n'est pas là, parce que c'est ça qui est important, ta condition de cœur, pour entrer. Donc, le Seigneur n'a jamais donné un message populaire. Il donne la réalité. Puis ça, on commence juste avec la première des 8 heureux, les pauvres en esprit. Le Seigneur va continuer à enseigner la même chose. C'est pour ça que moi-même, lorsque je me suis mis à regarder puis considérer ça, je me suis dit peut-être que j'avais besoin de réentendre ce que Seigneur Jésus enseigne, parce que c'est justement les conditions et les caractéristiques de ceux qui sont dans le royaume des cieux. On va prier. Seigneur, on te remercie parce que tu as été parmi nous sur la terre, puis tu as vraiment manifesté le royaume des cieux. Et ton but, ce n'était pas d'avoir la plus grande foule qui te suit, même si c'est ça qui est arrivé, mais ton but, c'était vraiment de venir prêcher que le royaume des cieux est proche, de venir vraiment enseigner quelle était la condition de chaque homme à l'époque que tu étais sur la terre, mais encore aujourd'hui. Puis ce qui est important qu'ils entendent justement pour entrer dans le royaume des cieux, pour s'approprier cette relation avec toi, puis avoir cette certitude, comme on s'est rappelé ce matin, qu'on a la vie éternelle, parce que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, puis d'être dans ton royaume. Puis Seigneur, on veut prendre à cœur ce que tu nous enseignes. Ça ne fera pas peut-être toujours notre affaire, mais c'est vraiment la réalité des choses. Puis on veut croire que ce que tu nous dis n'est pas seulement bon pour notre salut, mais bon aussi pour notre marche chrétienne comme citoyen du royaume des cieux. Merci de ce que tu as osé dire ce qui devait être dit, mais tu ne pouvais pas dire autrement de ce qui devait être dit. Puis merci de cette introduction à ce sermon et de ces béatitudes qui, j'en suis convaincu, peuvent nous apprendre encore beaucoup de choses. Amen. Amen.